Et en tout cas, elles ont une influence considérable sur les hommes. C'est assez impressionnant de voir que, en fait, une poignée de princesses germaniques, enfin devenues de peuples ou devenues catholiques, eh bien, ont réussi à convertir par leur mari d'autres peuples germaniques restés païens ou ariens. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez notable.
Et s'ils étaient dans l'armée romaine en tant qu'auxiliaire ou autre, à cette époque-là, ils étaient déjà convertis ou qu'est-ce qui...
Ben, la plupart
La
étaient,
plupart,
la
quoi.
plupart de ces Visigoths ou Ostrogoths étaient comment dire, des Ariens. Donc, et en fait, ils étaient déjà convertis. Hein. Alors, les Francs, en revanche, il y avait des auxiliaires francs qui n'étaient pas, non, qui étaient païens. Et, bon, on a eu
L'action
des. Vous
géographique,
savez, au moment où
quelque chose.
les Huns déferlent sur l'Occident, on a quand même des alliances extrêmement improbables. Avec des Romains des deux côtés, des Huns des deux côtés et des Germains ou des Visigoths des deux côtés. Et dans certaines batailles, en fait, c'est finalement l'armée romaine composée de Huns qui bat l'armée unique composée de Visigoths, par exemple. Il y avait des alliances qui défient alors toute logique, mais. Donc on a des choses sont beaucoup moins évidentes qu'elles peuvent le paraître. Alors après ces premières controverses donc avec les manichéens et puis les donatistes, qui ont quand même occupé pas mal de temps, Augustin, il y a une controverse qui est plus intellectuelle, parce qu'elle concerne moins de monde, c'est la controverse pélagienne.
C'est l'anglais.
Oui.
Voilà, le breton. En fait,
Breton.
Je sais pas de quelle origine
Elle
il
est quand
est.
même d'actualité.
Ah oui, bon,
Oui,
bah,
elle ressurgit tout le temps.
Elle ressurgit tout le temps, oui.
J'ai entendu, comment elle s'appelle, cette femme qui avait conseillé Chirac dire que le drame de l'Église n'aurait pas été pélagien. Cette femme qui était.
Garot?
Garot.
Ah oui.
Elle a une fois écrit, elle m'a
Ah,
écrit ça une fois.
ah oui, de ne pas avoir été assez pélagien. Alors, c'est vrai que parfois, on est trop quiétiste. Hein. Là encore, on est toujours entre deux feux. Entre les quiétistes qui disent c'est la grâce qui fait tout et on n'a qu'à se laisser porter, ce qui serait un petit peu la doctrine officielle de l'Église d'aujourd'hui, il faut le dire. Et puis de l'autre côté, le pélagianisme un peu janséniste qui dit en fait il faut tout faire par pénitence.
L'huile de coude.
Oui, il faut de l'huile de coude. Alors ce qui est que les jansénistes soient en plus. Parce que normalement, il devrait être plutôt que, dans l'autre sens. Enfin, bon, bref. Mais ce qui est assez. Oui, voilà, c'est ça. On est toujours entre deux. Et justement, la position d'Augustin, ça sera de ne pas tomber dans les deux excès possibles. Alors, Pélage était un moine breton, à l'époque où il n'y avait pas encore de germanique
Ah, mais de Grande-Bretagne.
Oui, c'est ça. De la Grande-Bretagne, oui. Et il avait un de ses disciples qui s'appelait Chelestius, qui s'était établi à Carthage en 410, après le sac de Rome. Vous vous souvenez que Rome avait été mis à sac en 410. Alors, Augustin va découvrir le danger de cette doctrine qui affirme, oui, qui annule en quelque sorte. La sotériologie chrétienne, puisqu'elle affirme que l'on peut se sauver par ses propres mérites et non plus par la grâce. Alors, quelle est la place du Christ dans la pensée pélagienne? Eh bien, le Christ n'est plus qu'un exemple à imiter. Autrement dit, c'est pas le Christ qui agit en moi, mais c'est le Christ qui agit devant moi, en fait. Il agit devant moi et moi je l'imite. La position catholique, c'est de dire le Christ agit devant moi, mais aussi en moi. Et finalement, la position pélagienne, c'est une régression à la vision du monde païenne, où globalement, Finalement, c'est le héros, en fait. Hein. Vous vous souvenez, la culture républicaine romaine, elle est fondée sur les exempla, hein, c'est-à-dire c'est Cloelia, c'est, comment il s'appelle, là, l'ennemi de Porsena, celui qui met la main dans le feu, là. Vous voyez qui je veux dire, Mucius, voilà, ou Régulus, voilà, donc ce sont les exemplats qui sont à imiter. Et là, en fait, finalement, le Christ est un héros à imiter. Et si on l'imite bien, eh ben, on fait son salut. La croix, comme dira Augustin, la croix était alors vidée de son sens, de sa puissance. C'est ce que dit saint Paul, c'est la réduction à néant de la croix du Christ.
Et puis la communion des saints.
Oui, aussi. Et en plus, c'est une doctrine extrêmement élitiste, et évidemment, qui venait des milieux monastiques. Augustin va insister, finalement, sa position, elle va se baser sur la tradition. Et la tradition, elle éclate dans la liturgie, et en particulier celle du baptême. Dans un de ses écrits de 412, qui est le De peccatorum meritis et de baptismo parvulorum, donc des mérites des pécheurs et du baptême des petits-enfants, il va montrer la nécessité de la grâce qui précède la volonté humaine et la nécessité du baptême pour participer à la victoire du Christ sur le péché. Nécessité de la grâce qui précède la volonté humaine. Parce que progressivement, alors, si on restait au baptême d'autrefois, c'est le baptême des adultes, on pourrait dire, ben voilà, c'est ma volonté qui fait que je deviens chrétien. Tandis que là, en fait, le baptême est conféré à des petits-enfants qui n'ont rien demandé du tout. Donc il y a bien une primauté, même temporelle, là, pour le coup, de la grâce sur la liberté ou la volonté. Et donc Augustin s'appuie sur la pratique liturgique qui s'est déployée, qui s'est répandue du baptême des petits-enfants, pour montrer que la grâce est première et que cette grâce est vraiment nécessaire, puisque là il y a aussi des passages évangéliques qui disent qu'il faut être baptisé pour parvenir au salut, il faut être baptisé. Alors après, voilà, effectivement, Augustin distinguera aussi des gens qui ont le désir du baptême, le désir inconscient du baptême et qui agissent, bon, etc. Mais c'est quand même des exceptions. Dans un autre écrit qui s'appelle De Spiritu et Litera, et dans un autre qui est le De Natura et Gratia, pour vous dire que combien de fois il va aborder ces questions avec les pélagiens, il va préciser la relation entre la loi et la grâce. L'accomplissement des commandements sans la grâce ne justifie pas. Et la grâce ne s'oppose pas à la nature, mais elle la guérit de ses blessures. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord que l'accomplissement des commandements sans la grâce ne justifie pas. Donc, ce n'est pas par nos propres moyens que nous pouvons nous sauver. Nous accomplissons les commandements de Dieu, même les commandements de l'Église, tout ce qu'on veut. Mais c'est une action de Dieu qui va rendre méritoire pour le salut, donc élever à l'ordre surnaturel un bien qui est d'ordre naturel. Nous faisons le bien naturel, et ce bien naturel ne devient méritoire pour le salut que parce que, par grâce, il est élevé par Dieu à l'ordre surnaturel.
C'est parce que Luther va reprendre un peu.
Ah ben, en tout cas, s'il l'a repris, il a raison, parce que c'est...
La justification par...
Oui, la justification par... Oui, alors lui, il la limite par la foi subjective.
Voilà.
Tandis que là, c'est par l'action des sacrements.
D'accord, non, mais
c'est ce que dit le Concile de Trente.
Ah ben, exactement. C'est ce que dit le Concile de Trente, et là, qui est très fidèle à saint Augustin. Donc, Augustin dit que on pourra faire, ben, encore une fois, c'est la pensée de saint Paul, hein, j'aurai beau, etc., etc., si je n'ai pas la charité, hein, la charité, fondamentalement, c'est la grâce, eh bien, tout cela ne me sert de rien. Hein, je suis que cymbale retentissante, etc. Donc, ça, c'est très important de comprendre. Et du coup, ça permet de comprendre l'articulation des deux. C'est pas la grâce qui fait tout sans que nous, on fasse rien. Il faut bien... Vous voyez, c'est comme, c'est comme un multiplicateur. Si vous n'avez rien à multiplier, vous arrivez à zéro, hein, ça, c'est sûr. Mais si vous ne multipliez pas, vous restez à ce que vous avez, c'est-à-dire pas grand-chose. Tandis qu'on pourrait presque dire que le multiplicateur de la grâce est infini et il est capable de produire beaucoup à partir de très peu. Mais encore faut-il avoir quelque chose à multiplier. Et ce qui a multiplié, du coup, c'est le bien, on pourrait dire, naturel que nous faisons en observant la loi... la loi naturelle ou la loi, même la loi divine. Mais observer la loi divine révélée sans la foi, sans la grâce, c'est pareil, ça ne sauve pas. Il faut véritablement que ce soit par la foi, par la foi formée, comme dira saint Thomas, c'est-à-dire pas simplement la foi au sens de croire des vérités, mais la foi qui fructifie en charité, hein, la foi complète que saint Jacques souligne dans sa lettre. Alors voilà, donc ça c'est un premier point. L'autre point, c'est de dire que la grâce ne s'oppose pas à la nature, mais elle la guérit de ses blessures. Donc, vous voyez, il n'y aurait pas deux étages où il y a l'étage de la nature, puis après il y a l'étage de la grâce. Mais il y a l'étage d'une nature qui est blessée, et le rôle de la grâce, c'est, on parle de gratia sanans, c'est la grâce qui guérit une nature blessée. Alors, la grâce a deux effets, elle est sanans, elle guérit, et elevans, elle élève. Donc elle élève à l'ordre surnaturel, mais au départ, elle guérit. Ce qui est blessé. Et donc la grâce va même de ce fait non seulement ne pas s'opposer à la nature, mais la perfectionner dans le sens que cette nature voudrait, mais qu'elle ne peut pas, même si elle était intègre, réussir à obtenir. Finalement, La logique de l'être rationnel, c'est de parvenir à Dieu, hein, c'est de connaître Dieu tel qu'il est. Notre raison humaine, même intègre, ne le connaît que de l'extérieur, que qu'en tant que créature, elle connaît son créateur. Et elle aspire à davantage. Et cette aspiration ne peut lui être donnée que par un perfectionnement qui va au-delà de la nature, mais dans la ligne que cette nature, mettons, espère. Donc les thomistes du Moyen-Âge parleront de désir naturel de voir Dieu. Ce désir, il est achevé dans la lumière de foi qui nous permet de connaître Dieu tel qu'il est réellement, surnaturellement. Vous voyez, donc ce que la nature aspire à connaître sans pouvoir le faire, eh bien, la grâce va lui permettre de se dépasser dans le sens de ce qu'elle attend, en quelque sorte, vous voyez. Donc la grâce ne s'oppose pas à la nature, mais comme dira saint Thomas, la perfectionne.
Elle la révèle.
Oui, voilà, elle la perfectionne au sens où elle l'amène à son terme, perfitiat. Alors du coup, Augustin donc réfléchit sur cette... parce que lui, quand même, il a fait l'expérience que, peut-être à la différence de Pélage, que sa nature était quand même un peu rétive au bien. Donc il s'est dit, il doit y avoir quand même un mystère de notre nature. Et réfléchissant sur la Genèse, il pense que, du coup, que le péché d'Adam n'est pas qu'un péché personnel, un péché qui aurait touché que celui qui l'a commis, mais c'est un péché qui a communautaire, qui a touché aussi sa descendance. Alors c'est la grande période où on interprète ça sous le l'angle de ce qu'on appelait le traducianisme. Le traducianisme, c'est en fait, c'est par la procréation que se transmet le péché originel. Alors du coup, vous avez toutes les tendances ancratistes qui disent, pour supprimer le péché originel, supprimons la procréation. Oui, voilà. Mais déjà, par exemple, au début du IIe siècle, vous aviez alors tous les éloges de la virginité, des méthodes d'Olympe, Saint Jérôme, etc., etc. Enfin, toutes ces éloges de la virginité, c'était aussi pour empêcher la propagation du péché. Mais c'est du coup aussi l'extinction de la race, hein, c'est le problème. Donc on dira à un certain moment que, au Concile de Trente notamment, mais même avant, avec les conciles d'Orange, il me semble, que le péché se propage, se transmet par propagation, mais pas par procréation, si on veut. Voilà. Donc, autrement dit, ça, c'est extrêmement typique des définitions dogmatiques. Une définition dogmatique, elle exclut une erreur et elle utilise un terme suffisamment vague pour que la réflexion théologique ultérieure puisse le préciser. Parce que quand on dit par propagation, on dit ça se propage. Voilà. Alors, ça se propage comment ? Au moins pas par la procréation. Ça se propage autrement, sachant que aux générations suivantes de trouver comment. Et il faudra attendre Thomas d'Aquin pour dire que le péché originel a blessé la nature humaine dont le premier Adam la possédait tout entière en lui. Vous voyez ? Donc, si bien que le premier Adam, il n'est pas, c'est pas une brute à peine sortie de l'animalité, comme on pourrait l'imaginer. C'est en fait celui qui résume en un seul personnage, voire un seul couple, la totalité de la nature humaine. Et donc, son péché à lui le blesse lui, mais blesse aussi toute la nature humaine. Et donc, nous naissons tous avec une nature abâtardie. Une nature blessée, sans qu'on y soit coupable, et sans non plus qu'il y ait une transmission par un vecteur, on pourrait dire, plus ou moins matériel, plus ou moins spirituel, plus ou moins. Non, c'est juste notre nature qui a été blessée dans le péché du premier homme. Et alors, donc, c'est ça que Augustin va comprendre aussi. Il comprend que la faute d'Adam n'est pas que personnelle, mais qu'elle est aussi communautaire. Et c'est là qu'il parlera de massa damnata, donc de masse condamnée. Faute qui ne se transmet pas donc seulement par imitation. On ne fait pas simplement qu'imiter des modèles mauvais, mais par cette propagation dont Augustin pensait encore qu'elle était d'ordre sexuel. Donc il faudra attendre une réflexion ultérieure pour se rendre compte que c'est simplement un péché de nature. Alors pour lui, la propagation, elle est effectivement motivée par la concupiscencia, la concupiscence, qui est cette blessure infligée à la nature humaine, cette avidité, en quelque sorte, dans tous les domaines. Et alors, il va dire que la grâce est donc nécessaire pour guérir cette nature abîmée, et qu'en plus, elle est gratuite. on n'a pas besoin de mérite pour l'acheter, en quelque sorte. Et du coup, que la grâce est prévenance, hein, elle est prévenante, la grâce nous est donnée avant même que nous en ressentions la nécessité ou le besoin. Autrement dit, Dieu sauve sans mérite de notre part, puisque sa grâce est prévenante, mais en tout cas, il ne condamne pas sans faute de notre part. Donc ça, pour éviter une sorte de fausse symétrie qui serait la prédestination au mal. Donc Dieu nous prédestine au bien en nous donnant la grâce prévenante, mais si on ne saisit pas la perche, là réside la faute. Hein, vous voyez, notre nature blessée, c'est comme si on était un naufragé. Dieu nous tend à tous la perche, et si on ne saisit pas la perche, si on refuse de la saisir d'une certaine manière, c'est la faute qui fait que nous coulons. Alors, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Et puis, on continuera sur la controverse. Alors, vous verrez que c'est très important, parce qu'il y aura après des discussions tout au long du 5e et du 6e siècle. Oui, ce qu'on appellera le semi-pélagianisme, etc., etc. De savoir qui est-ce qui est la... Oui, oui. Qu'est-ce qui est d'abord la volonté ou d'abord la grâce, etc., etc. Et après, tout ça ressurgira au XVIe et au XVIIe siècle avec les doctrines, oui, c'est ça, de Baius et de Jansénius.
Et vous parlerez de Jansénius la prochaine fois, non?
Non, je continue, Augustin. Oui.